Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades. La campagne présidentielle est lancée et je voudrais discuter des objectifs qui sont les nôtres et du combat que nous devons engager dès aujourd'hui parce que nous ne devons pas rester spectateurs. La campagne politicienne donne lieu à une surenchère sécuritaire, anti-immigrée et xénophobe répugnante. Pour faire des voix, Sarkozy, Le Pen, mais aussi Hollande, ont choisi d'utiliser le terrorisme et le drame des migrants. Ils alimentent un climat anxiogène et ils renforcent les pires préjugés et bien sûr, ils encouragent les racistes. Eh bien, il ne faut pas rester à regarder. Contre cette campagne démagogique, il faut entraîner les travailleurs à mener leur propre campagne, à mettre en avant leurs préoccupations, leurs intérêts, leurs besoins. Il y a 6 millions de chômeurs dans ce pays. Et s'il y a des salariés qui vont au boulot la peur au ventre, ce n'est pas à cause du danger terroriste, c'est de peur d'être licenciés. Des millions de femmes et d'hommes, des centaines de milliers de jeunes vivent dans l'angoisse de ne pas trouver de travail, d'être marginalisés, de tomber dans la misère. Combien n'arrivent pas à se loger dignement, à se soigner? Combien n'arrivent pas à joindre les deux bouts? Ce sont les problèmes quotidiens du monde ouvrier. Si nous, travailleurs, nous ne les mettons pas en avant dans cette campagne, personne ne le fera. Affirmer son droit à un emploi, à un salaire, à une retraite digne est une nécessité vitale pour chacun d'entre nous. C'est ce que nous avons fait pendant les 4 mois de mobilisation contre la loi El Khomri. Face à l'attaque qu'a constituée cette loi, des centaines de milliers de salariés du privé, du public, se sont battus contre l'augmentation du temps de travail, contre la précarité, contre les mensonges patronaux sur le prétendu dialogue social en entreprise. Ils ont revendiqué leurs droits. L'écrasante majorité des travailleurs, sans forcément participer aux grèves et aux manifestations, s'est reconnue dans ce mouvement et en a été solidaire parce que, de fait, cette mobilisation a exprimé le ras-le-bol et les intérêts de l'ensemble de la classe ouvrière. Eh bien, ce que nous avons fait sur le terrain social, il faut le faire sur le terrain politique. Regardez Alstom, 6 milliards de bénéfices en 10 ans, 30 milliards d'euros de contrats juteux et la direction envisage la fermeture de l'usine de Belfort. Regardez SFR, qui appartient au géant Altice. 6 milliards d'euros de bénéfices en 2015. La direction annonce 5 000 suppressions d'emplois. Philips, 400 millions de profits en un seul trimestre cette année. La direction a programmé la fermeture de son usine du Loir-et-Cher et supprime 142 emplois à Miribel, cessant toute production. Et combien d'autres encore? La crise a éclaté en 2008 et les fermetures d'usines, les suppressions d'emplois ne se sont pas arrêtées. Et à chaque fois, l'avenir de milliers d'ouvriers, d'employés, de techniciens, d'ingénieurs est remis en cause. La vie de leur famille est bouleversée. Eh bien, nous appelons les travailleurs à dénoncer cette politique patronale. Nous les appelons à affirmer la nécessité de prendre sur les profits pour garantir les emplois, pour répartir le travail entre tous de façon à combattre le chômage et pour augmenter les salaires. Nous appelons les travailleurs à affirmer qu'il faut faire payer la bourgeoisie parce que, crise ou pas crise, commande ou pas commande, le monde du travail n'a pas à être sacrifié sur l'autel du grand capital. S'exprimer, se rassembler le plus nombreux possible pour faire entendre le camp des travailleurs au premier tour. C'est ce qu'il y a de plus utile à faire dans ces élections. Parce que l'enjeu n'est pas de savoir qui sortira vainqueur du second tour. On le sait d'avance. Les jeux sont faits. Celui qui sortira des urnes en 2017 sera un ennemi des travailleurs. Qu'ils se disent de gauche ou de droite, une fois qu'ils sont élus, ils font tous une politique anti-ouvrière. Comme l'a fait Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012. et comme l'a fait François Hollande depuis 2012. Choisir parmi Sarkozy, Juppé, Hollande, Le Pen, c'est choisir parmi ses ennemis, celui qui nous piétinera à partir de mai 2017. C'est accepter par avance d'être trompé et sacrifié, c'est une duperie. Tous ceux qui sont susceptibles d'arriver au second tour, Sarkozy, Juppé, Hollande, Montebourg, Le Pen, aspirent tous à gouverner pour le compte de la bourgeoisie. Ils raisonnent tous du point de vue des intérêts patronaux. Ils défendent tous une politique pour aider le patronat, pour baisser, comme ils disent, le coût du travail, pour faciliter la compétitivité. Mais la compétitivité, c'est toujours sur le dos des travailleurs qu'elle se fait. C'est au nom de la compétitivité qu'ils justifient les licenciements, la précarité, l'aggravation des cadences et les bas salaires. Eh bien, c'est au nom de la compétitivité et de la concurrence internationale que tous ces gens-là feront encore reculer la condition ouvrière. Et ils ne le cachent même pas. À droite, Sarkozy, Juppé et Fillon se déchirent pour accéder à la mangeoire. Mais ils sont tous d'accord pour faire reculer l'âge de départ à la retraite. Ils sont d'accord pour considérer que les salariés ne travaillent pas assez et qu'il faut mettre fin aux 35 heures. D'accord pour dire que les fonctionnaires sont trop nombreux et les chômeurs trop bien traités. D'accord pour baisser les impôts patronaux et faire reculer les services publics. Et si la droite peut présenter des programmes aussi anti-ouvriers, c'est que les socialistes au pouvoir ont préparé le terrain. La droite ne fait que reprendre le travail là où le laissent Hollande, Valls et Macron. Si les Sarkozy et Juppé peuvent parler de la retraite à 64 ou 65 ans, c'est que Hollande l'a laissé à 62 ans, malgré ses promesses. Et s'ils promettent de réduire de 100 milliards les dépenses publiques, c'est qu'Hollande a justifié 50 milliards de coupes. S'ils envisagent de faire sauter les 35 heures, c'est que les lois Macron et El Khomri ont déjà fait sauter pas mal de barrières. Oui, au pouvoir, la gauche et la droite se passent le relais depuis des décennies. Hollande a poursuivi la politique anti-ouvrière de Sarkozy et demain, le futur président de la République poussera les attaques un peu plus loin. Ces politiciens peuvent compatir au sort des chômeurs et des ouvriers mal payés. Ce sont de bons acteurs et de bons menteurs. Il leur arrive même parfois de dénoncer les abus patronaux. Mais ils n'imaginent pas la société autrement qu'avec une classe d'exploités d'un côté et une classe d'exploiteurs de l'autre. Ils n'imaginent pas une seconde aller à l'encontre des intérêts fondamentaux de la bourgeoisie. Ils lui sont tous dévoués, corps et âme. Alors, voter pour l'un ou l'autre de ces candidats, quand on appartient au monde ouvrier, c'est voter contre son camp. C'est voter contre ses intérêts, contre tous ses représentants de la bourgeoisie. Nous appelons à un vote de conscience ouvrière. À les entendre tous, au jour d'aujourd'hui, de Le Pen jusqu'à Hollande, les seuls problèmes du pays, c'est Calais, les migrants, la sécurité et la montée du communautarisme qu'ils contribuent eux-mêmes à créer par leurs mille et une provocations. Cette campagne n'a qu'un seul but, celui de faire des voix en s'appuyant sur les peurs et en flattant les préjugés racistes. C'est de la diversion et c'est de la démagogie, parce qu'ils ne sont pas plus capables de maîtriser l'arrivée de migrants que d'éradiquer le terrorisme. Ni Sarkozy, ni Hollande, ni Le Pen ne freineront l'arrivée des migrants. Ils peuvent construire des murs, des barbelés, creuser des fossés, mettre des miradors, et c'est ce qui se fait déjà dans nombre de pays, mais ils n'empêcheront pas la vague migratoire. Parce qu'on a tous en tête les images d'Alep, et de ces villes bombardées en Syrie, en Irak, on sait que tant que les hommes auront des jambes et l'énergie pour marcher, eh bien ils essaieront de sauver leur peau, comme nous tous, dans la même situation. Alors, l'extrême droite, la droite, des gens comme Wauquiez peuvent gesticuler. C'est de la pure démagogie, de la démagogie aussi stupide qu'infecte. Wauquiez refuse la création de 1 800 places de réfugiés dans la région. une région de 8 millions d'habitants. Pour se justifier, il explique que cela fera autant de petits Calais. Parce que la Drôme, le Puy-en-Velay, le Rhône ont une frontière avec la Grande-Bretagne ? Depuis quand ? Mais le résultat de tout ça, c'est que ces dirigeants, qui sont à la tête de municipalités et de régions, rendent la vie de ces femmes et de ces hommes plus insupportable encore. Et ils introduisent les sentiments les plus abjects dans la population. Et ils poussent les plus racistes à passer aux actes. Ce sont des pyromanes. Contre cette politique criminelle, il faut affirmer pour tous les exploités la liberté de circulation et d'installation. Car c'est la fermeture des frontières qui crée le drame des migrants. Et si nous laissons, si nous acceptons de laisser mourir les femmes et les hommes qui frappent à nos portes parce qu'ils ne peuvent plus vivre chez eux, demain, on nous forcera à accepter que l'on abandonne des travailleurs bien d'ici avec la même indifférence. Eh bien, il faut que les travailleurs accueillent les migrants, les réfugiés, à bras ouverts et qu'ils en fassent au plus vite des frères de classe et des frères de combat pour changer de fond en comble cette société qui est de plus en plus inhumaine. Et puis, à côté de tout cela, il y a tous les débats sur le terrorisme. Les débats sans fin sur les fichiers S, sur l'état d'urgence, sur l'organisation de la police et de l'armée, sur le renforcement des prisons. Les amalgames permanents entre le terrorisme et l'islam, sous couvert de grandes questions comme la laïcité, la nature de l'islam. Ils se complaisent tous dans des postures autoritaires et répressives. Mais ce n'est pas cette course à l'échalote sécuritaire qui empêchera les vocations terroristes de naître. Notre société est malade. Elle pourrit de l'intérieur. Que des jeunes de 15, 18, 20 ans rêvent de se faire exploser et de tuer le plus de monde possible au passage pour aller plus vite au paradis est le signe de cette décadence. Il n'y a plus d'idéal dans notre société, plus de projet collectif. C'est le culte de la réussite et de l'enrichissement personnel. On est censé s'extasier devant les milliardaires alors que la misère s'étale partout sous nos yeux. La société capitaliste marginalise, elle exclut, elle nous met en concurrence permanente, elle pousse chacun à sauver sa peau individuellement, elle pousse à l'isolement, à la haine de l'autre, à la déshumanisation. C'est cela le terreau de la délinquance et le terreau du fanatisme religieux. Alors il est facile de tenir des discours électoralistes et de promettre toujours plus de répression. Changer cette réalité-là, c'est autre chose. Mais tant que nous ne remettrons pas en cause cet ordre social, la société ira, oui, de déchéance en déchéance. Tous les dirigeants qui prétendent régler le terrorisme nous mentent. Ils sont en guerre contre le terrorisme depuis plus d'une décennie. Pour quel résultat ? Le chaos et la multiplication des foyers terroristes en Irak, Libye, Syrie, en Afghanistan. Daesh, qui exerce une des dictatures les plus féroces au Moyen-Orient, est le fruit des rivalités, des manipulations politiques des grandes puissances, des Américains, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de la Russie, mais bien sûr de la France aussi. Avec leurs bombes et leurs manœuvres actuelles, ils vont créer des nouveaux monstres. Les travailleurs n'ont rien à gagner dans la préservation de cet ordre social. Alors, non aux interventions militaires françaises au Moyen-Orient, non à l'impérialisme français. Notre camp, c'est celui des exploités du monde entier et c'est celui de tous ceux qui combattent pour s'émanciper. Avec cette campagne sur le terrorisme, l'identité nationale, l'immigration, les Sarkozy et les Hollande nous enfument pour cacher la misère qu'ils ont contribué à fabriquer. Il y a eu 1 million supplémentaires sous Sarkozy, 1 million de plus avec Hollande. Avec le patronat, ils sont responsables du recul de la condition ouvrière. Ils ne cessent de répéter qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais ce sont eux qui la fabriquent, la misère. Ils la fabriquent en Syrie, par leurs manœuvres, par leurs bombes. Ils la fabriquent ici, par le chômage et la précarité. Ils la fabriquent pour s'enrichir, eux, toujours et encore. Certains travailleurs, des chômeurs, des femmes et des hommes au RSA, sont exaspérés quand ils apprennent que l'État alloue 11,45 euros par jour à chaque demandeur d'asile. Déjà, c'est juste pour le temps d'examen de sa demande. Et encore, s'il a un hébergement dans un centre d'accueil, le demandeur d'asile ne touchera plus que 3 euros par jour. Et rien du tout s'il refuse d'aller dans ce centre. Mais comparez ces 11 euros aux 19 000 euros que l'on donne chaque jour à Carlos Ghosn, le PDG de Renault, aux 21 000 euros que l'on donne chaque jour au PDG de PSA, Tavares, comparé à ce que l'on donne chaque jour à une bourgeoise comme Madame Bettencourt, 1 million. Et je dis bien que l'on donne, car d'où vient cet argent, si ce n'est du travail de l'ensemble de la classe ouvrière? Eh bien cet argent, il devrait servir à construire des logements, il pourrait servir à construire des écoles, des collèges, des centres de santé, il pourrait servir à répartir le travail entre tous pour que chacun ait un emploi et qu'on éradique ce fléau qu'est le chômage. Oui, le monde ouvrier a à se battre contre la bourgeoisie qui confisque les richesses que nous créons tous collectivement par notre travail. Dans cette élection, montrons qu'il y a des travailleurs qui ne se trompent pas d'ennemis. Affirmons qu'il y a bien deux mondes dans cette société, celui des riches et des pauvres, le monde des exploiteurs d'un côté et celui des exploités, qui regroupe des femmes et des hommes de toutes origines et de toutes confessions. Levons le drapeau de la classe ouvrière internationale et le drapeau de la lutte de classe. La conscience de classe a reculé dans le monde ouvrier. Nous avons tous autour de nous des collègues de travail, des gens de notre famille, qui, à force d'être écœurés par la gauche gouvernementale, se sont mis à regarder et à voter vers le Front National et parfois même à voter pour le Front National. Ils ont tort, parce que pour se venger du PS, pour exprimer leur dégoût vis-à-vis de toute leur trahison, ils servent de tremplin à un parti tout aussi férocement anti-ouvrier. Mais ils expriment le sentiment d'avoir été trahis. Et oui, à chaque fois qu'ils ont porté au pouvoir un président de gauche, ils ont été trahis. Et aujourd'hui, qu'est-ce que leur propose la direction du Parti communiste français, de loin le plus implanté dans la classe ouvrière? Eh bien, de retomber dans le même piège, de renouveler leurs illusions dans un bon candidat de gauche, alors que de plus en plus de travailleurs ont compris qu'ils avaient autant d'ennemis à gauche qu'à droite, la direction du PCF s'acharne à sauver la gauche. La direction du PCF voit même son candidat parmi les Montebourg, Duflot, Hamon, tous anciens ministres de Hollande. A-t-elle oublié qu'ils ont tous été les exécutants de la politique anti-ouvrière de Hollande ? Qu'ils ont applaudi au pacte de responsabilité et à tous les cadeaux patronaux, qu'ils se sont félicités des accords de compétitivité imposés aux travailleurs à coup de chantage patronal. Les ouvriers, ceux qui ont perdu leur emploi, eux, ils ne l'oublient pas. Aujourd'hui, Montebourg dénonce le laisser-faire du gouvernement et le rend co-responsable de la fermeture programmée d'Alstom à Belfort. Mais qu'a-t-il fait lui-même pour empêcher la fermeture de l'usine Citroën d'Aulnay ? Il a gesticulé pour sauver Florange, mais il a fini par se coucher devant Mittal, laissant des travailleurs sur le carreau malgré ses promesses. Et c'est dans ce genre de politicien que les travailleurs devraient replacer leur confiance. Et les militants du PCF devraient leur servir de masse de manœuvre. Pierre Laurent, le dirigeant du PC, est prêt à subordonner son parti sans même se donner la peine de fixer les conditions de son soutien. Il soutiendra un candidat de gauche sans même exiger de lui quoi que ce soit pour les travailleurs, car les perspectives politiques du PC ne sont pas fondées sur les intérêts et les luttes du monde ouvrier. Elles sont fonction des alliances électoralistes, censées préserver ses élus à l'Assemblée nationale, dans les régions, les départements ou les municipalités. Ce sont des calculs stériles, illusoires et démoralisants pour ses propres militants. Exactement comme il l'a fait avec Mitterrand, puis avec Jospin, le PCF veut recréer des illusions dans la gauche gouvernementale et refaire une virginité à des politiciens qui pensent en bourgeois et qui sont attachés à l'ordre bourgeois. Et Jean-Luc Mélenchon est aussi arrangé dans cette catégorie. Il prétend, comme les autres, avoir une politique pour la France, en occultant le fait essentiel pour le monde du travail, la lutte de classe acharnée que mène le patronat pour faire reculer les salaires, les conditions de travail et aggraver l'exploitation. Jean-Luc Mélenchon est en guerre contre beaucoup de choses, contre les traités européens, contre la politique de l'Allemagne, contre les États-Unis, contre la Ve République, contre les médias aussi, souvent, mais pas contre le grand patronat, pas contre son pouvoir sur l'économie, pas contre le système d'exploitation qui est à la base de la condition ouvrière. C'est pourtant ce qui est décisif pour la vie du monde du travail. Et ça l'est d'autant plus dans cette période de crise. Quoi qu'en dise le gouvernement, la crise n'est pas finie. On s'y enfonce, et pas seulement en France, y compris en Allemagne, qui est montrée comme l'exemple de la réussite économique. La production n'a même pas encore retrouvé son niveau d'avant la crise de 2008. La finance et la spéculation sont toujours plus folles. Et la réalité, c'est que le capitalisme est en bout de souffle, et cela ne peut aller que de pire en pire. Voilà pourquoi la concurrence et la guerre économique et la pression à la compétitivité sont de plus en plus dures. C'est mathématique. Pour conserver ses marchés, pour accroître ses profits, la bourgeoisie ne peut qu'intensifier l'exploitation, parasiter encore davantage le monde ouvrier et faire reculer la condition ouvrière. Les travailleurs qui se battent au jour le jour pour leurs intérêts vitaux le savent. Il n'y a pas d'entre-deux. Le grand patronat mène ses attaques de façon impitoyable pour ses profits et sa rentabilité. Eh bien, pour être du côté de la classe ouvrière, il faut être contre le grand capital. Il faut être résolu à combattre ses profits. Il faut se préparer à lui faire la guerre. Et les politiciens qui ne s'engagent pas à faire payer la bourgeoisie et à s'appuyer sur les travailleurs mobilisés pour le faire se destinent à la servir. C'est sur cette base que les travailleurs peuvent juger qui sont leurs amis et leurs faux amis. La campagne présidentielle à venir peut servir au combat des travailleurs si elle est l'occasion de faire avancer la conscience ouvrière. Le sentiment de classe, le sentiment de faire partie des exploités existe parmi les classes populaires. À chaque fois que les travailleurs se trouvent acculés, ils retrouvent leur réflexe de classe. Mais entre un sentiment de classe et une conscience de classe solide, forte, capable de résister aux pressions de la société et d'orienter les travailleurs dans les combats collectifs qu'ils ont à mener à l'échelle de toute la société, il y a un gouffre. Eh bien, il faut profiter de cette élection pour renforcer la conscience de classe du monde du travail. Cela signifie de se revendiquer non pas de la gauche, mais du camp des travailleurs. En politique, la gauche ne désigne plus qu'une écurie de politiciens dévoués corps et âme à la bourgeoisie, comme Valls, Hollande, Macron, des étrangers au monde ouvrier. La véritable frontière politique ne passe pas entre la gauche et la droite politicienne, elle passe entre le patronat et le camp des travailleurs. Alors faisons entendre le camp des travailleurs, ses intérêts et ses perspectives de changer la société. Le lendemain de l'élection, nous retournerons au travail. Beaucoup d'entre nous retourneront au pointé à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim. Et on se retrouvera confrontés au même chef, au même patron, aux mêmes actionnaires invisibles mais tout-puissants. On se retrouvera confrontés à son banquier, à son propriétaire, qui n'admet aucun retard de paiement, quand bien même on a perdu son travail. On se retrouvera confrontés à l'administration, qui sait dérouler le tapis rouge pour les plus riches, mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Rien de ce qui est fondamental pour notre vie de travailleurs ne sera changé. Parce que les élections ne changent pas notre condition d'exploité. Et elles ne changeront pas cet ordre social, dominé par l'argent et la bourgeoisie qui en est au sommet. La nouveauté, c'est que le petit personnel politique de la bourgeoisie aura changé. Les riches auront un nouveau président de la République à leurs pieds. Cela, beaucoup de travailleurs le savent, parce que d'élection en élection, ils en ont fait l'expérience. Ils savent qu'il ne faut pas prendre les promesses des politiciens pour argent comptant. Mais, faute de lutte sociale d'ampleur, toute la vie politique se résume à ces élections. Chaque campagne électorale donne lieu à un spectacle où, jour après jour, mois après mois, les politiciens, relayés par les médias, nous jouent la comédie du changement et du sauveur suprême. Et c'est ainsi que repart la machine à fabriquer les illusions électoralistes. C'est ainsi que les électeurs sont dressés pour voter utile, ou alors pour essayer quelqu'un qui n'a jamais gouverné, ou voter pour le moins pire. Mais encore une fois, le mieux que nous pouvons faire dans cette élection, en tant que travailleuses et travailleurs, c'est de nous exprimer. Beaucoup parleront avec mépris d'un vote de contestation, de protestation, ou encore d'un vote d'expression. Eh bien, nous le revendiquons. Nous appelons les travailleurs à voter pour exprimer leurs intérêts matériels et politiques. Cela ne changera pas la société, cela ne modifiera pas le rapport de force entre le patronat et le gouvernement, entre le patronat, le gouvernement et les travailleurs, c'est vrai. Il n'y a que l'action collective des travailleurs qui peut le faire. Qu'un mouvement social puissant comme ceux qu'on a connus en mai-juin 1936, en mai 1968. Mais regardez la mobilisation contre la loi El Khomri. Elle n'a pas réussi non plus à inverser le rapport de force et à faire reculer le gouvernement. A-t-elle été pour autant inutile? Sûrement pas. En se montrant, en dénonçant, en revendiquant leurs intérêts, les travailleurs conscients et combatifs ont contribué à élever la conscience des travailleurs en général. Malgré les monceaux de calomnies, malgré les insultes comparant les grévistes à des preneurs d'otages, à des terroristes, l'opinion ouvrière a résisté. Eh bien oui, seuls ceux qui se battent, ne serait-ce que pour leurs idées, peuvent influencer la situation. La résistance commence par dire ce que l'on pense. Cela commence par dire que l'on n'est pas d'accord, quand bien même on n'est pas sûr de pouvoir changer les choses. Oui, la résistance des travailleurs dépend de ce qu'ils ont dans la tête. Exprimer nos intérêts contre nos ennemis, c'est le premier pas pour la résistance, le premier acte de résistance. Nous sommes à contre-courant. Mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, aussi barbare, quand le courant pousse à la soumission et à la résignation, nous pouvons être fiers de nos idées et de nos perspectives. Ne craignons pas d'être minoritaires. À quoi sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire? Aujourd'hui, combien de travailleurs se mordent les doigts d'avoir voté Hollande en 2012? Et il faudrait recommencer avec un autre? Chercher à voter pour le moins pire, c'est se fourvoyer. La situation ne peut qu'empirer pour le monde ouvrier s'il ne se bat pas collectivement. Quant à s'abstenir, ce n'est pas une preuve de radicalisme ou de conscience. S'abstenir, c'est se résigner, c'est se taire. Si nous ne défendons pas nos idées, qui le fera? Personne ne mènera le combat à notre place. On peut nous enlever beaucoup de choses, mais on ne peut pas nous enlever nos idées, nos convictions, notre dignité. Eh bien, il faut les affirmer. Et il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petits gestes. Quand on est à contre-courant, la moindre voix compte et peut porter. Alors il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Je suis la candidate. Les institutions sont ainsi faites qu'il fallait un nom, une personne, et mes camarades m'ont choisi. Je serai donc en première ligne par rapport aux médias. Merci de compatir. Je serai donc en première ligne par rapport aux médias. Et je me battrai comme je pourrai sur les plateaux de télé à chaque fois que l'on m'en donnera la possibilité. Mais vous le savez, Ma campagne sera superbement ignorée par les médias jusqu'aux 15 derniers jours, où ils seront forcés de m'inviter un petit peu par les règles électorales. Autant dire qu'il ne faut pas compter sur les médias. Pour que cette campagne soit réussie, il faut que ce soit notre campagne à tous. Il faut aussi que ce soit votre campagne. Il faut que vous multipliez les discussions avec vos camarades de travail, dans votre famille, auprès de vos amis, dans votre voisinage. Il faut que chacun d'entre nous essaye de convaincre 1, 2, 3, 10 personnes et leur donne envie de s'exprimer en tant que travailleurs, salariés, chômeurs. Rien n'est à négliger. Toutes les discussions seront utiles. Cela dépend de la ténacité et de la force de conviction de chacun d'entre nous. Si nous sommes des milliers à entraîner 5, 10 personnes à voter, et si ces personnes elles-mêmes en entraînent 1 ou 2, nous aurons fait une bonne campagne. Cela nous donnera aussi l'occasion de nous rassembler et d'associer des jeunes et des moins jeunes à la reconstruction d'un parti ouvrier, communiste et révolutionnaire. Alors, je compte sur vous tous pour nous aider dans cette campagne et pour avancer sur la voie du parti qui est nécessaire au monde du travail. Mais pour finir, je veux revenir justement sur le sens de cette candidature. Je ne suis pas candidate pour aller à l'Élysée ou à Matignon. L'Élysée, ni moi, ni Arlette Laguiller avant moi, n'en avons jamais rêvé. Ni moi, ni aucun des camarades de lutte ouvrière n'aspirons à prendre quelque responsabilité que ce soit dans ce système qui est basé sur l'exploitation et l'oppression. Nous voulons le renverser. Nous avons la conviction qu'il est possible de renverser la domination de la bourgeoisie et que les travailleurs peuvent le faire collectivement. Nous avons la conviction que les travailleurs peuvent fonder une toute autre société, débarrassée de l'exploitation et basée sur des rapports égalitaires, et qu'ils sauront faire en sorte de répondre aux besoins de tous. Nous sommes communistes révolutionnaires. Et ceux qui voteront pour ma candidature voteront pour faire entendre le camp des travailleurs. Et il n'y aura pas de mauvaise surprise. Leur vote ne sera pas déformé. Il sera sans ambiguïté. Tous ceux qui n'acceptent pas qu'une minorité s'enrichisse sur le dos des travailleurs, tous ceux qui n'acceptent pas qu'une poignée d'actionnaires fasse la pluie et le beau temps, tous ceux qui sont révoltés contre la dictature des capitalistes sur la société, nous les appelons à prendre la parole dans cette présidentielle, et ils peuvent le dire avec ma candidature. Ce sera un vote de rejet de tous ces politiciens prêts à servir la soupe à la bourgeoisie. Ce sera un vote qui affirmera l'existence du monde du travail, de ses droits et de ses intérêts. Ce sera un vote qui affirmera que quel que soit celui qui sortira des urnes en 2017, nous savons que nous serons attaqués et nous ne nous laisserons pas faire. Ce sera un vote de dignité et de conscience ouvrière, parce que la société peut se passer de la bourgeoisie, pas des travailleurs qui font tout tourner et qui produisent toutes les richesses.
Beaucoup les années de la vie.